On va repartir sur quelque chose de moins pratique, de plus théorique. Qu'est-ce qu'une métadonnée ? Parce que souvent, on entend nos politiques nous dire que finalement, vous inquiétez pas, on regarde pas le contenu de vos mails, on regardera que les métadonnées. Parce que les métadonnées, pour eux, c'est rien. Du coup, on va voir à travers différents exemples, qu'est-ce qu'une métadonnée ? Dans le cas d'un appel téléphonique, bah, finalement, les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est le numéro de l'appelant, le numéro de l'appelé, la durée de l'appel et la position géographique. Mine de rien, on n'a pas le contenu, mais ça peut donner quand même pas mal d'informations. Dans le cas d'un email, on a le compte mail de l'envoyant, donc votre adresse mail, les destinataires à qui vous avez décidé d'écrire, la date et l'heure de l'envoi du mail, le titre de l'email. Là encore, c'est assez précis en fait. Enfin, on sait avec qui vous parlez. On sait à quelle heure vous échangez. Et on a une idée du sujet. Même si le sujet n'a rien à voir, rien que les personnes avec qui vous parlez, c'est déjà suffisamment. Enfin, c'est déjà une information en soi. Le serveur utilisé. Bon, là, on pourrait croire qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le logiciel de composition utilisé. Bah, là, on sait si vous utilisez Gmail, le webmail de Gmail. L'application Gmail sur votre téléphone. Si vous utilisez l'application mail de votre téléphone, bah là on sait que déjà vous n'étiez peut-être pas forcément chez vous. Vu l'heure, c'est peut-être bizarre d'avoir utilisé votre application sur votre téléphone alors que vous aviez un PC à votre disposition. On n'est que dans la supposition, mais ça donne déjà énormément d'informations sur vous. C'est que de la métadonnée, mais c'est quand même de la donnée. Dans le cas de la consultation d'une page web, lorsque vous essayez d'accéder à un site comme Wikipédia, bah finalement, on a votre adresse IP. C'est une adresse unique qui sert à vous identifier vous. On a l'adresse IP du serveur demandé. Bah, pour le coup, ça sera l'adresse IP du serveur sur lequel est hébergé Wikipédia. On aura le nom de domaine demandé. Bah oui, parce que en fait, la machine qui héberge Wikipédia, elle peut héberger d'autres sites. Bon, bah là, on saura précisément quel site vous consultez. Le document demandé, pour le coup, bah, ça pourrait être l'article Wikipédia sur le djihadisme. Bah, effectivement, vous avez le droit de vous intéresser au djihadisme. Vous avez le droit d'aller voir la page Wikipédia qui en parle. Ça ne fera pas de vous un terroriste. Votre navigateur, savoir que vous utilisez Google Chrome, savoir encore une fois que vous utilisez Google Chrome version mobile ou Firefox parce que vous faites attention à votre vie privée. Votre système d'exploitation. Ah bah là, tout de suite, si vous utilisez Windows, vous pouvez passer pour quelqu'un de non averti, quelqu'un de. Par contre, si comme le monsieur là-bas, vous utilisez Ubuntu, là tout de suite, on sait que peut-être que vous êtes un petit peu plus averti. Votre langue et les cookies posés par le serveur. Encore une fois, faut garder en tête que quand les médias ils vous disent que votre fournisseur d'accès Internet, il va donner que les métadonnées, que vos métadonnées. Il va analyser que ces données-là, bah, finalement, ça en donne déjà pas mal. Enfin, on sait déjà ce que vous regardez, à quelle heure vous le regardez. On sait avec qui vous écrivez. On sait où est-ce que vous êtes, finalement. C'est pas n'importe quoi comme données. Ça reste des données importantes. Et en fait, des métadonnées, on en trouve même dans les photos. Effectivement, si je m'amuse là tout de suite à prendre une photo, bah, y aura le nom du fichier, les dimensions de l'image. Le modèle de l'appareil que j'aurais utilisé, le réglage de sensibilité de la luminosité, ce qu'on appelle ISO, quand on s'y connaît en photo, tout ça. Le numéro de série de l'appareil photo, la date, l'heure de prise de photo, la position, l'altitude, l'orientation géographique. Toutes ces photos qu'on publie sur Twitter, sur Facebook, tout ça, là encore, bah, en fait, on livre un certain nombre d'informations qu'on considère souvent comme pas importantes. Et finalement, bah, la position et l'heure, avec ça, on peut potentiellement déduire qui vous avez pu croiser, à qui vous avez pu parler. On peut déduire beaucoup de choses, en fait. On peut déduire votre chemin, votre parcours. On peut déduire... Encore une fois, voilà, c'est pas de l'information totalement simple. Ça a de la valeur et c'est important de d'en avoir conscience. J'espère avoir mieux illustré ce que c'est qu'une métadonnée. Vous avoir sensibilisé un peu plus à l'importance de ces métadonnées, que vous ayez conscience que bah, c'est des données finalement un peu comme les autres. Elles n'ont pas de statut particulier. Enfin, je ne vois pas pourquoi on livrerait plus nos métadonnées. plus que nos données, parce que finalement, bah, le contexte est tout aussi important que la donnée elle-même. Si vous avez des questions, monsieur. Alors, la question, c'est vous le subissez. Oui, on le subit. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? On peut, bah, déjà, c'est bien d'en avoir conscience qu'on le subit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter que nos politiques cherchent à connaître? On appelle. Ouais, on sensibilise nos députés. On reste vigilant à ce qui se passe, à nos lois qui passent, aussi bien nationales qu'européennes que mondiales. Vous aviez une question? Alors, la question, c'était, est-ce que toutes les photos, tous les fichiers qui passent, qui sont sur nos ordinateurs, est-ce qu'ils transitent par les GAFAM? Est-ce qu'ils sont conservés? Alors, qu'est-ce que les GAFAM? C'est vrai. Alors, les GAFAM, en fait, c'est les grosses sociétés, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple. Donc, c'est des grosses sociétés qui effectivement, collectent beaucoup de données, tels des silos de données. Ils collectent toutes les données et les stockent. Est-ce que toutes nos données, elles transitent forcément par eux? Non, parce que vous n'êtes pas obligé de stocker vos photos sur Google Drive, de les publier sur Facebook, quand je stocke un fichier sur mon ordinateur, il appartient qu'à mon ordinateur, et si je le synchronise pas avec mon Google Drive, il n'y a pas de, Google n'y aura pas accès. Maintenant, effectivement, si je commence à la publier sur Facebook, bah, cette donnée, elle sera partagée avec le monde entier. En fait, tout dépend de ce qu'on fait de nos données. Tout dépend de si on décide de les partager ou pas sur Internet. C'est une question qu'il faut bêtement se poser. Pour chaque fichier, il y a une réponse différente à apporter. Est-ce que j'ai vraiment envie de publier une photo de mes vacances sur Internet? C'est à moi de voir. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que je le regrette pas? Est-ce que je le regretterai pas? Est-ce que j'ai pas intérêt à regarder du côté de ces métadonnées et peut-être à essayer d'en effacer certaines? Il y a des métadonnées qui s'effacent. Typiquement, la géolocalisation d'une photo. Bah, par exemple, je peux juger que ça n'a pas vraiment d'importance que ça reste dans cette photo, surtout avant de la publier. Je me dis que bah, Facebook n'a pas forcément besoin de savoir que je l'ai prise à 14h23, ni le jour précis. Enfin, si je décide de la publier, je peux décider de la publier ce jour-là et que Facebook n'en sache rien. Il y a des petits outils, j'en parlerai tout à l'heure pour justement essayer de faire le ménage dans ces métadonnées au niveau des photos. Par contre, au niveau de l'email, par exemple, je ne vais rien avoir. Enfin, pour le coup, l'email, bah, il est standardisé. Dans tous les cas, il y a l'adresse mail de l'expéditeur. Dans tous les cas, il y a l'adresse mail des destinataires. Dans tous les cas, il y a la date et l'heure de l'envoi. Dans tous les cas, il y a un sujet. Alors, ce sujet, je peux ne rien mettre dedans, mais ça n'aura pas beaucoup de... Ça n'aura pas beaucoup d'effet. Enfin, finalement, l'information importante qu'on peut tirer des métadonnées de l'adresse, enfin, d'un email, c'est bêtement qui communique avec qui et à quelle heure. Bon, ben ça, on pourra rien faire pour éviter ça. Il y a deux questions. Oui. Est-ce qu'il y a un cadre limitant pour l'État pour récupérer ces métadonnées? Non, il n'y a pas de non. L'État considère que la justice a libre droit d'accès aux métadonnées et que au contraire il doit regarder ce qui. Enfin, globalement, la justice aura toujours le droit d'accéder à vos métadonnées. Une autre question. Alors la question c'est PGP. PGP en fait, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est un système de chiffrement de communication. Et du coup, est-ce que PGP camoufle ces informations, ces métadonnées? Eh bien, fait malheureusement non. C'est bien ça le souci. Avec PGP, on va pouvoir camoufler la donnée, chiffrer la donnée. Donc le cœur du message. Maintenant. Toutes les informations autour, elles ne seront pas chiffrées. On revient encore une fois sur l'exemple de finalement de la carte postale et de l'enveloppe. Oui, une autre. Est-ce qu'il n'existe pas un médiateur numérique? La CNIL, c'est le rôle de la CNIL de jouer ce rôle, de médiateur numérique. Maintenant, elle a peut-être un petit peu plus du mal à s'imposer ces dernières années. Il ne faut pas hésiter à essayer de la solliciter et essayer de lui rappeler ses devoirs.
En clair, si ça dépend Vis-à-vis de qui vous voulez justement effacer ces informations vis-à-vis de vous, pour le niveau français, effectivement, c'est la CNIL. Je parlais tout à l'heure du RGPD, donc le 28 mai prochain. Cela va s'appliquer au niveau européen et tout le monde aura les mêmes règles. Et si c'est une entreprise qui est en Irlande ou si c'est une entreprise qui est en Allemagne, la CNIL sera compétente pour faire remonter. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que malheureusement, la CNIL, depuis 2003, il y a une attaque vis-à-vis de son rôle, puisqu'elle a été créée en 1978 à cause d'un fichier de police qui a été très mal nommé. On l'a appelé Safari. Super, c'est la chasse aux Français. Hein. Et le rôle originel de la CNIL était de justement de réguler le fichage organisé par l'État et les croisements de fichiers. Le principal problème, c'est que depuis 2003, on est entré dans une ère de paranoïa totale. Et on considère que la CNIL a maintenant juste un droit de regard, de dire « Oh, il faudrait pas trop », etc. Et on passe de plus en plus, en plus, en plus de lois sécuritaires. On a une inflation du nombre de fichiers de police qui est absolument effarant. Pratiquement, on parle de plus de 80, dont 40 sont illégaux. Hein. Mais on les régule après coup. Oh, il y a un attentat. Ah bah, ça tombe bien. Hop, on a une loi qui est prête. On va s'attaquer au terrorisme. On va réguler les fichiers qui n'auront pas permis d'empêcher ces attentats. Donc, c'est un gros, gros, gros problème. Le seul moyen de réguler ça, c'est justement, c'est d'appeler son député, appeler son sénateur et de lui dire... La loi d'état d'urgence n'a servi à rien. Essayer de rajouter justement plus de surveillance globale, ça ne sert à rien. Il y a des associations qui proposent des outils très bien de ce côté-là. Il y a notamment la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, il y a la FFDL, l'April, il y a toutes ces associations qui sont là, qui proposent même des campagnes de phoning quand il y a une loi qui est en cours de débat. Donc c'était le cas justement le mois dernier. Il n'y a pas eu suffisamment de coups de fil pour arriver à convaincre. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que passer un coup de fil à un homme politique sur un sujet, même si c'est que son assistant qui décroche et qui prend l'appel, eh ben ça a un certain poids. Parce que quand vous avez 20 coups de fil dans l'heure, tout d'un coup c'est « Ah, mince, ça va se voir ». Et c'est ça qui est important. Alors quand on disait effectivement les hommes politiques ne sont pas surveillés, etc., c'est non, non. Ils les ont ces informations, ils se les gardent au chaud. Le problème, voilà, c'est qu'il faut quand même un minimum d'égalité. Et eux, ben, ils ont droit à une protection que nous, on n'a pas le droit. Ben, le meilleur moyen, c'est de leur appeler, leur dire « ça n'est pas normal ». C'est la seule chose que je peux vraiment vous conseiller dans l'immédiat. Par contre, après, il faut identifier les menaces et il faut identifier effectivement quel est le problème. Mais on va voir tout à l'heure que les métadonnées ont une utilité et que, oui, des fois, on est obligé de les laisser fuiter parce qu'elles sont utiles.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, la question, c'est combien de temps sont conservées ces métadonnées pour le web ou les appels téléphoniques ?
Donc, à l'origine, la loi de conservation des données, c'est 2 ans en France. C'est en train d'être réduit à 1 an. Et la loi européenne, donc qui s'applique à tous les pays européens, dit 15 jours, notamment pour les IP, les consultations de log IP, c'est 15 jours. Donc on essaye de, enfin il y a des associations qui essayent de faire valoir le droit européen par rapport au droit français, mais c'est une question encore complexe. Ouais.